n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Une nouvelle étude sur la pauvreté et la précarité dans l'Ain. Un sociologue et des enseignants-chercheurs sont nos invités.
Reportage au monastère de Brou avec les pompiers du SDIS-01. Nous avons assisté à un test grandeur nature pour sauver les œuvres majeures du musée en cas d'incendie.
La GL Bourg lance une opération de soutien à l'Ukraine. On en parle dans quelques minutes.
Et tout de suite, c'est votre actu en bref.
Bourg en bref.
L'arrêté de péril levé rue Maréchal Foch.
Après un dégât des eaux dans le magasin Pimki, dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse, les bâtiments présentaient des fragilités. Un arrêté de péril avait alors été prononcé le 28 novembre. Heureusement, rien de grave, le rapport de l'expert a permis de lever l'arrêté. Le magasin Etam, adjacent à celui de Pimki, va pouvoir rouvrir et les locataires vont se réinstaller. Pimki pourra rouvrir seulement après les travaux suite au dégât des eaux.
La journée internationale des migrants, c'est ce samedi.
Et comme tous les 17 décembre, une journée est dédiée aux migrants. Le collectif Solidarité Migrants organise des événements pour l'occasion. Il y aura une manifestation pour les droits des migrants à 14h30 devant la préfecture de Bourg-en-Bresse. Et à 16h30, Omar Slaouti, un enseignant et militant, auteur du livre « Racisme en France », viendra faire une conférence au 1 avenue Pierre Semard. C'est ouvert à toutes et à tous.
Ils ont de 13 à 17 ans, ils viennent de toute la région et samedi, ils seront sur un ring.
C'est la finale du championnat de boxe Auvergne-Rhône-Alpes et ça se passera au gymnase Favier à Bourg-en-Bresse. 20 finales seront disputées à l'organisation, le club burgien de boxe anglaise, les boxeurs burgiens. On écoute Hüsnü Erdoğan, son directeur sportif. Il nous explique les particularités des combats pour ces adolescents.
C'est la boxe olympique en fait, les KO sont autorisés, les coups sont portés. Après les règles, elles changent, c'est-à-dire un minime. Qui a 13 ans, un minimum de, il peut boxer, par exemple, il va boxer sur 3 fois 1 minute 30, avec 1 minute de récupération à chaque fois. Arrivé à cadet, ça sera 3 fois 2. Junior, ça peut être 3 fois 2 suivant le nombre de combats qu'ils ont. Et ça peut aller jusqu'à 3-3, en 3 fois 3 minutes. Alors la particularité par rapport aux seniors, c'est qu'ils ont tous des casques. En boxe olympique, en France, les casques, on les enlève à partir, si on est senior, plus de 18 ans, et si l'on a plus de 10 combats.
Et alors des jeunes à suivre du côté des boxeurs burgiens qui sont engagés dans cette compétition?
Oui, on a un petit jeune qui s'appelle Abdenour Bensurer, qui est dans la catégorie des moins de 52 kilos, qui a des 1, qui a déjà 7 combats en minime 2.
Et ensuite, donc après cette finale pour ces jeunes, c'est quoi la prochaine étape?
La prochaine étape, ce sera le critérium national, le championnat de France. Quoi.
La finale du championnat de boxe Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce samedi 17 décembre. Rendez-vous vers 17h au gymnase Favier, rue du Docteur Duby. L'entrée est gratuite.
2 minutes, une actu.
La GL Bourg lance une cagnotte pour aider le peuple ukrainien.
Suite au match aller de l'équipe de basket Bressane contre le club ukrainien de Prométhée la semaine dernière, le comité d'éthique Think JL a décidé de lancer une grande opération de dons pour l'Ukraine. On écoute Ilya Sidorov, joueur de l'équipe ukrainienne de Prométhée. Il était à Bourg-en-Bresse mardi dernier. Je veux déjà remercier votre club de la part de notre club et merci au peuple français de la part de tous les Ukrainiens de parler encore de cette guerre. Beaucoup de monde oublie qu'elle a encore lieu et cela depuis plus de 9 mois. Des gens meurent tous les jours. Hier, les Russes ont envoyé plus de 70 roquettes sur nos infrastructures. Ils veulent mettre notre pays dans le noir complet. L'hiver est très dur dans notre pays, il fait moins 5 degrés en ce moment. Des habitants se sont retrouvés sans électricité pendant 18 heures. C'est pour ça que nous sommes très reconnaissants que des personnes nous soutiennent et nous aident. Merci d'en parler pour que le monde entier nous entende et que nous puissions tous ensemble arrêter cette guerre.
To let the world hear us and to help together to stop this war.
L'Association internationale des soldats de la paix, basée à Lyon, est aussi impliquée dans le projet, notamment pour son soutien logistique. Cette ONG, reconnue par l'ONU, est composée d'anciens casques bleus. Laurent Attar-Bahirou, président de l'association, salue l'initiative de la JL Bourque.
Il y a une belle image qui est donnée. C'est que par le sport, donc les gens donc s'expriment, donc les joueurs s'expriment, les membres donc du club donc s'expriment, mais en même temps ils mettent tout leur cœur et leur esprit pour faire une action humanitaire, aider ceux qui en ont besoin. Et c'est pas uniquement aider donc par un chèque, c'est aussi se mettre en avant pour les aider.
Les soldats de la paix vont aider à acheminer des couvertures, des groupes électrogènes ou encore des radiateurs dans la région de Dnipro qui est visée par les tirs russes. Didier Lamy, président du comité d'éthique ThinkJL, encadre le projet.
On débute sur ce genre d'opération. C'est une opération, quand on se dit comme ça intellectuellement, c'est très bien et on y va et c'est formidable pour tout le monde. C'est qu'après, il y a un vrai travail sur le plan opérationnel. Et il était important qu'on ait quelqu'un qui nous accompagne sur ce dossier-là. L'opération débute aujourd'hui pour se terminer le 1er mars et on va l'animer toutes les semaines, tous les 15 jours. On fera des points d'étape, on racontera des petites histoires, des verbatims, etc.
Et si vous voulez donner pour aider le peuple ukrainien, vous pouvez aller sur le site de la JL et cliquer sur la plateforme de dons ou envoyer un chèque à l'ordre de ThinkJL Solidarité Ukraine à l'adresse suivante ThinkJL Solidarité Ukraine, 25 avenue du Maréchal Juin, 0000 Bourg-en-Bresse. Des permanences seront aussi tenues avant chaque match dans l'entrée d'Equinox. Pour rappel, en plus de 9 mois de guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu 250 000 victimes. Le front est pour l'instant stabilisé à l'est de l'Ukraine, mais les Russes continuent de faire pression. Une conférence a lieu ce mardi à Paris pour soutenir l'Ukraine avec une quarantaine d'États, des organisations internationales et des entreprises.
L'invité de Radio B.
Une personne est considérée comme pauvre si elle touche moins de 1100 euros par mois, selon les chiffres officiels. Des professionnels du social et médico-social, des élus ou encore des bénévoles étaient réunis la semaine dernière pour un nouveau rendez-vous autour de la pauvreté et de la précarité dans l'Ain. Des rencontres portées par le magazine Interaction, trimestriel dédié à l'actualité sociale dans notre département. Pendant cette journée a été restituée la nouvelle étude Pauvreté et précarité dans l'Ain, initiée par l'association Alpha 3A. Deux universitaires ont enquêté. En plus de collecter des statistiques, ils ont participé à des tables rondes et ont rencontré une cinquantaine de personnes dans tout le département, des acteurs du social, professionnels et bénévoles, et des personnes en situation de pauvreté et de précarité. Un état des lieux pour mieux comprendre la situation et aider les acteurs du social à réfléchir à de nouvelles actions.
Franck Olivon, donc je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Paris.
Et Florence Nussbaum, je suis maître de conférence à l'Université Lyon 3.
À quel moment on se dit qu'une personne est pauvre et à quel moment on dit qu'une personne est précaire ?
Ce qu'on peut dire à minima, c'est que est pauvre toute personne qui pourrait bénéficier de l'aide sociale ou qui bénéficie de l'aide sociale. Et puis la précarité, alors on peut la limiter au secteur de l'emploi, considérer que l'emploi précaire, c'est l'emploi qui ne correspond pas au stéréotype du CDI. Mais on peut aussi considérer plus généralement que la précarité, c'est un état de glissement vers la pauvreté, voire une difficulté à se projeter, à faire des, à faire des projets.
Si vous pouvez revenir sur ces disparités en fonction du territoire.
Il y a une très forte concentration des activités à Bourg-en-Bresse, ce qui fait que Bourg polarise une zone assez vaste aux alentours. Donc il faut se rendre à Bourg-en-Bresse pour l'emploi, parfois pour la garde d'enfants, etc. Puisque c'est des choses qui n'existent pas dans des territoires plus périphériques. Et de la même façon, il y a une très forte inégalité entre le Pays de Gex et le reste du département. Le Pays de Gex qui est beaucoup plus aisé, mais ce qui implique aussi donc une pauvreté spécifique de travailleurs pauvres, puisqu'il y a beaucoup d'emplois dans la région. Mais par contre, du coup, c'est des salaires qui ne sont pas suffisants pour se loger, par exemple.
Et sur le budget, qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Oui, et le haut budget concentre une pauvreté rurale très importante, liée aussi au déclin démographique et au vieillissement de la population. Donc il y a une forte surreprésentation, par exemple, des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé dans la région. Donc c'est une pauvreté différente. Et également, c'est un désert médical, dans le sens où il y a très très peu d'accès à des médecins généralistes, à des professions de santé en général, ou de santé mentale.
En ajoutant les questions de difficultés de transport et de mobilité pour les populations habitant le Bugey. Et notamment, il y a certains secteurs géographiques qui peinent particulièrement à recruter des travailleurs sociaux, des infirmiers, etc., etc. Des emplois nécessaires en fait, pour accompagner les personnes en situation de pauvreté et de précarité.
Comment on peut expliquer ces difficultés de recrutement ?
Alors c'est assez variable, c'est de toute façon un secteur qui recrute peu, parce que de manière générale, de manière globale, ce sont des métiers qui sont en crise, qui ne suscitent plus de vocation. Et puis par ailleurs, dans certains secteurs géographiques, ça tient au fait que les salaires de ces professions-là sont insuffisants pour s'adapter au niveau de vie du territoire. On pense en particulier au Pays d'Aix, où vraiment il y a un déficit de travailleurs sociaux. Et ça s'explique simplement par le fait que vivre dans le Pays d'Aix, c'est devenu trop onéreux en fait pour des travailleurs sociaux.
Vous disiez donc qu'il y avait une différence de pauvreté forcément entre les personnes qui vivent dans les villes et dans les territoires ruraux. Qu'est-ce que vous avez noté en particulier ?
Oui, il y a une nette différence entre pauvreté urbaine et pauvreté rurale. À la fois, les villes concentrent les populations les plus pauvres en termes de profil socio-économique. Et en même temps, les villes concentrent aussi les services d'aide sociale. Donc la pauvreté rurale est peut-être moins nombreuse, moins concentrée, mais en même temps, elle a aussi moins de voies de recours, de modes d'assistance.
Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ces échanges avec ces personnes en situation de précarité ou de pauvreté ?
Enfin, ce qui m'a marqué, moi, c'est la détresse de certaines personnes. Avec des situations parfois très complexes, des personnes qui ne voient pas comment s'en sortir, comment en sortir, et qui nous mettaient aussi dans une position un petit peu délicate de savoir comment est-ce que nous, on pouvait les aider, quoi.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement la difficulté à prendre en compte, prendre en charge ces problématiques de pauvreté ou de précarité, puisque en fait souvent il y a plein de problématiques associées. Hein, les acteurs du social parlent de situations complexes où il y a à la fois une problématique de santé, en même temps des questions de logement, d'accès à l'emploi, de mobilité, et donc c'est difficile d'accéder, de prendre le problème par tous les bouts. On ne sait pas par quel bout le prendre, et donc c'est aussi cette difficulté à faire face que j'ai trouvé frappante.
Donc c'est ça, donc des acteurs du domaine social qui ont des difficultés à savoir comment toucher ces différentes personnes.
L'impuissance, en fait, l'impuissance de la détresse d'un côté des personnes en situation de pauvreté, de précarité, et d'autre part l'impuissance d'un certain nombre de travailleurs sociaux qui ne savent plus comment faire, en fait.
Qui en même temps sont très polyvalents, du coup, c'est-à-dire qu'ils vont suivre une personne et donc ils vont aborder tous les aspects de sa vie, ils vont l'aider à trier son courrier, ils vont l'aider à faire des demandes d'aide, à gérer son budget, et donc ils vont aussi essayer d'intervenir sur tous les aspects en même temps, puisque toutes ces choses sont reliées.
Et est-ce qu'on peut sortir de la pauvreté et de la précarité ?
La plupart des personnes concernées, en fait, entrent et sortent de la pauvreté ou de la précarité, dans le sens où elles vont passer légèrement au-dessus, légèrement en dessous de ces seuils, à la fois du seuil de pauvreté monétaire, donc 60% du revenu médian, où leur situation peut changer très vite, se dégrader très rapidement, s'améliorer. Donc c'est des personnes qui vont sans cesse entrer et sortir de situations de pauvreté ou de précarité. Et d'ailleurs, une bonne partie des personnes interrogées ont parfois connu au cours de leur vie des périodes de pauvreté et en sont sorties aujourd'hui. Mais il y a aussi des personnes qui vont être dans une pauvreté durable, de long terme. On citait l'exemple des bénéficiaires du RSA qui sont dans le dispositif depuis plus de 4 ans. C'est le cas de 50%, il me semble, des bénéficiaires du RSA dans l'Ain. Donc il y a aussi une pauvreté installée beaucoup plus longue.
Florence Nussbaum, maître de conférence à l'Université Lyon 3, et Franck Olivon, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Paris. Franck Olivon conclut en parlant de la nécessité d'investir et d'accompagner les personnes pauvres et précaires pour combattre la reproduction de la pauvreté et permettre aux enfants de ces personnes d'avoir les mêmes chances de réussite. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Serge Pogam était le grand témoin de cette journée. Sociologue, il est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a assisté à chaque rencontre sur le thème de la pauvreté et de la précarité organisée par Interaction. Les dernières, c'était en 2010 et 2016. Des études ont été réalisées à chaque fois, alors des études menées différemment, avec donc leurs particularités. Pour celle de 2022, Serge Pogam le constate, il existe aujourd'hui de nouveaux visages de la pauvreté et donc des personnes moins accessibles comme les travailleurs pauvres.
L'action sociale n'est pas prévue pour venir en aide aux personnes qui travaillent, mais plutôt aux personnes qui sont en dehors du monde du travail, qui ont des difficultés pour accéder à l'emploi et qui ont de nombreuses autres difficultés. Alors précisément, ça interroge de voir qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, et puis dans le département de l'Ain, de nombreuses personnes qui travaillent, mais qui, pour diverses raisons, ont beaucoup de difficultés à finir à boucler leur fin de mois. Et quand on se souvient de la crise des Gilets jaunes, on voit très bien que cette crise a aussi fait ressurgir cette question de la précarité, car il s'agissait effectivement de personnes que l'on ne voyait pas, que l'on ne pouvait même pas imaginer la souffrance que ces personnes ressentaient, parce que isolées socialement, parce que travaillant dans des métiers parfois difficiles et parfois loin de leur lieu de travail, ils devaient faire donc beaucoup de déplacements en voiture, donc des déplacements coûteux. Quand ils se retrouvaient après dans leur village en milieu rural, ils ne bénéficiaient pas forcément de tous les services, de toutes les activités possibles, et donc ils pouvaient aussi ressentir une forme d'isolement social, d'où la sociabilité qui s'est développée sur les ronds-points comme un mode finalement alternatif, façon de repenser en quelque sorte la solidarité, la fraternité. Et donc je sens qu'il y a effectivement dans cette étude potentiellement réalisée dans le département de l'Ain, cette réalité qui interroge encore aujourd'hui beaucoup les acteurs sociaux, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est nécessaire que les travailleurs sociaux qui interviennent dans ce département se saisissent aussi de cette réalité et trouvent des solutions pour mieux la combattre.
Vous parlez donc d'une pauvreté précarité qui est multiple maintenant ?
Absolument. C'est une pauvreté qu'on va dire multidimensionnelle, qui ne concerne pas uniquement la question monétaire. On voit effectivement la question de l'accès aux services de santé dans un département aussi où il y a parfois des difficultés à accéder aux services de santé, des problèmes de logement, notamment à travers la question de la précarité énergétique qui gonfle les charges. Mais il y a aussi une question qui est importante, aujourd'hui débattue, y compris dans les instituts nationaux comme l'INSEE qui essaye d'avoir des indicateurs pour saisir cette pauvreté multidimensionnelle, c'est la question des liens sociaux, la question de l'isolement social, comment mesurer le degré d'isolement social, comment mesurer la solitude des personnes, et qui renvoie à un type de pauvreté qui est une pauvreté relationnelle, c'est-à-dire qui fait autant souffrir que la pauvreté matérielle, c'est-à-dire se sentir en décalage par rapport au monde dans lequel on vit, ne pas pouvoir vivre au même rythme que les autres membres de la société, donc se sentir moins attaché aux autres et à la société. C'est quelque chose qui est à l'origine d'une détresse psychologique.
Serge Pogam, sociologue. L'étude sur la pauvreté et la précarité dans l'Ain sera disponible en intégralité début 2023, et retrouvez tous les numéros du magazine Interaction sur interaction01.info.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
À Brou, les pompiers sont venus pour sauver les œuvres du musée.
Pas de panique, ce n'était qu'un test grandeur nature pour appliquer le plan de sauvegarde des biens culturels. C'est une procédure qui permet de savoir, grâce à une tablette, comment sauver des tableaux par ordre de priorité si jamais un incendie avait lieu dans le musée. Les pompiers du 10-01 et les salariés du monastère de Brou étaient tous sur le pont pour cet exercice. Un camion de pompiers avec des ordinateurs était placé devant le monastère pour diriger l'opération. C'est là qu'on commence notre visite.
Je suis le lieutenant Christophe Thuot, au 10 de l'Ain, je suis en charge de la préparation opérationnelle. Ici, vous êtes au poste de commandement qui est dirigé pour l'exercice par le capitaine Raffetin qui a pris le commandement des opérations de secours. Il y a eu plusieurs secteurs suite à un départ de feu dans une salle vidéo. La strate de fumée était assez basse mais assez dense et elle menaçait des œuvres d'art dans une des parties du musée. Du coup, il y a eu une montée en puissance pour nous, sapeurs-pompiers, avec différents engins engagés. Ici, vous pouvez voir un tableau, on appelle la CITAC, une situation tactique, qui nous donne les informations des différents engagements, différents moyens qui sont sur place, et de toutes les actions réalisées et les actions anticipées. Et ça, c'est le rôle du commandant des opérations de secours. Florian, si tu veux rajouter un élément sur la partie CITAC.
Voilà, donc effectivement, suite au départ de feu, la priorité, c'est de sauvegarder les personnes. Donc, avec l'aide des employés, les personnes ont été évacuées. Donc, au total, pour l'exercice, 30 visiteurs et 12 employés. Donc, il fait 42 personnes évacuées qui seront mises au chaud dans un gymnase mis à disposition par la commune. Ensuite, c'est d'éteindre l'incendie pour éviter la propagation des fumées. Et malheureusement, dans l'exercice là, les fumées sont propagées au niveau du musée. Donc, la deuxième priorité, ce sera de mettre en sécurité les œuvres d'art avec une priorisation qui est effectuée en amont.
Quand on intervient, les chefs d'agrès incendie ou les chefs d'agrès aux ambulances sont dotés d'une tablette avec laquelle ils peuvent aller sur les différents bâtiments quand ils arrivent, ceux qui sont référencés grâce à un QR code. Vous avez peut-être déjà vu ça récemment. Le monastère royal en est doté. Il a un QR code qui n'est encore pas apparent à l'extérieur, mais par contre, il est bien dans la tablette, ce qui nous permet à nous d'avoir tous les éléments dans la tablette et ainsi de pouvoir cheminer au mieux et d'avoir nos idées de manœuvre. Au poste de commandement, on a différents outils et là, on va vous présenter l'outil qu'on a utilisé aujourd'hui pour le plan de sauvegarde des œuvres. C'est assez novateur. Il y a peu de SDIS en France qui en sont dotés. On a travaillé de concert avec le monastère royal. C'est un plan de sauvegarde des biens en 360, ce qui nous permet plutôt en amont, c'est-à-dire en formation ou en prévention, de pouvoir s'orienter dans le musée. C'est ni plus ni moins qu'une visite virtuelle, comme vous pouvez le faire depuis votre ordinateur, aller vous déplacer dans les différentes salles. Sauf qu'on y a adjoint pas mal de choses qui nous concernent. On a les différentes vues de niveau qui sont intéressantes. Ici, la vue extérieure, le rez-de-chaussée avec le plan, les différents emplacements où je peux me situer, et l'étage également. Un peu plus bas, on a un tableau avec les ordres des œuvres à venir évacuer. Donc là, pour les besoins de l'exercice, on a mis nos 6 œuvres qu'on va utiliser aujourd'hui. Et si je clique sur l'œuvre à évacuer notamment, j'arrive tout de suite devant l'œuvre concernée. Je sais où je suis situé dans le bâtiment, par un petit personnage qui me l'indique ici, dans quel sens je regarde, donc je sais où est-ce que je suis. Si je clique sur l'œuvre, puisque c'est une œuvre prioritaire à évacuer, j'arrive sur une fiche. Cette fiche, elle me donne les différents éléments du tableau et comment je dois le protéger ou l'évacuer. Son emplacement, son identité, son poids, sa taille, le matériel qu'il me faut, combien il faut de personnes pour l'évacuer. Et ici, la manipulation. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on a encore, même si on est en 2022, on les retrouve en format papier, plastifié, qu'on peut donner à nos équipes qui vont sur place avec. On l'a sur la tablette, on l'a sur le format papier. Et au poste de commandement, ça nous permet de pouvoir aussi pouvoir inciter le commandant des opérations de secours à aller vers les œuvres prioritaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le cheminement qu'on a élaboré pour l'exercice, vous emmener jusque sur place, comme ça je vous explique au passage tout ce qu'on a fait.
Non, je vais les exprimer.
Tout à l'heure, quand l'incendie s'est déclaré, le gardien attendait les secours ici. Les premiers intervenants sont arrivés. Et il les a conduits à l'endroit du sinistre et c'est là où je vais vous emmener. Donc là on passerait pas par là, d'habitude c'est fermé, mais vu que pour les besoins des secours on est là. Les pompiers sont passés par là. C'est le gardien qui les a conduits. L'appel à 13h27 en fait. Ils sont arrivés à 13h41. Ouais, du coup on était dans le vrai. Donc le feu avait démarré ici dans la salle vidéo. Là, on voit le vidéoprojecteur, le feu avait démarré ici. Les fumées poussaient dans ce sens et allaient endommager toute une grande salle avec des tableaux d'importance. Du coup, il y a été un rideau stoppeur de fumée. C'est un rideau qu'on utilise en opération pour empêcher la fumée d'aller plus loin. On l'utilise souvent dans les habitations pour protéger les fumées dans les cages d'escalier. Et là, en fait, ça a toute son utilité.
C'est bon, je le prends.
Les pompiers se sont entraînés à sauver une réplique d'un triptyque, un tableau en 3 volets, même poids et même mesure que l'original. Ils étaient 5 pour cette manipulation. Le tableau est ensuite mis à l'abri dans une salle de repli. Là-bas, Magali Bria-Philippe, conservatrice en chef du monastère, répertorie les œuvres.
Donc après, à l'intérieur de cette zone, donc on a prévu évidemment tout un tas de matériel, donc des lampes, puisqu'il faut bien imaginer que l'électricité est coupée. Vous voyez qu'on a, on a deux caisses, une caisse, on va dire, d'urgence avec nos chasubles, avec tous les documents imprimés aussi du plan de sauvegarde et une liste de pointage. Donc là, vous voyez, chaque fois que les œuvres vont arriver, je vais les pointer. Et puis, noter aussi dans quel état elles sont. Donc si, par exemple, elles ont été mouillé, qu'on a perdu des morceaux de cadre, je vais les mettre dans un sachet. On va donc faire des zones différentes suivant l'état de conservation des œuvres. Et puis dans un second temps, on a une liste de restaurateurs avec des coordonnées qu'on va contacter pour qu'ils viennent faire des constats d'état et des interventions sur des œuvres. Après, nous avons bien sûr des éponges, des chiffons, des pinceaux, aspirateur, enfin de quoi aussi pouvoir sauvegarder les œuvres dans l'urgence en attendant l'arrivée des conservateurs restaurateurs.
Pour les œuvres trop imposantes qui ne peuvent pas passer par les portes, le monastère de Brousse est doté d'un rideau protecteur. Les pompiers se sont aussi entraînés à le mettre sur le tableau de Gustave Doré, Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer, un tableau de 3 mètres sur 4. Il y a de plus en plus de plans de sauvegarde des biens culturels, surtout après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un peu plus de la moitié des monuments du Centre des Monuments Nationaux possèdent des plans de sauvegarde des biens culturels.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et c'était le dernier À vous les Burgiens de cette année 2022. Alors on vous dit à l'année prochaine. Et en attendant, profitez bien des fêtes de fin d'année.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. En fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre, pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.